comme prévu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique pour parler donc de l'autophobie. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Kariba, merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
Tout le plaisir est pour moi. Docteur, alors en premier lieu, quand on parle d'autophobie, ça veut dire quoi concrètement ?
Écoutez, pour être franc avec vous, moi c'est un mot que je ne connaissais pas avant qu'on en discute. Et puis c'est vrai que étymologiquement parlant, on a tendance à rapidement dire que c'est la peur de soi. Mmh. Et en fait, mais c'est plutôt dans le sens d'être seul. Mmh. Hein, donc c'est ce qu'on retrouve. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas un trouble à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de catégorie diagnostique où on va parler d'autophobie, mais c'est que c'est plutôt un symptôme qu'on va retrouver dans un ensemble de situations cliniques, dans un ensemble, je dirais peut-être même d'âge de la vie, etc., qui va faire que on va être en grande détresse psychique quand on va se retrouver seul. Donc pour vous proposer quelques exemples de où on peut trouver ça, c'est principalement les troubles anxieux, d'accord, et principalement les personnes qui font des attaques de panique. Donc les attaques de panique, rappelez-vous, ce sont des crises d'angoisse d'intensité massive qui prennent très rapidement. Les personnes qui font des attaques de panique et qui sont aussi sujettes à l'agoraphobie vont le plus souvent être en grande détresse quand elles sont seules, parce que dans le cadre de leur pathologie, il y a une crainte exagérée d'avoir un malaise et de ne pas être secouru, grosso modo. Et donc, forcément, il y a à ce moment-là constamment une personne qui doit être avec nous pour nous secourir dans le besoin. Et c'est ce qu'on appelle une personne contraphobique. Il y a aussi, pas que les troubles anxieux, mais plutôt les troubles obsessionnels compulsifs, où assez souvent, on a une dynamique relationnelle ou familiale qui va s'intégrer dans la maladie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des obsessions de vérification, etc., peut inclure soit son conjoint, soit son entourage familial dans les vérifications et dans le fait d'effectuer les rituels. Ça, on le voit assez souvent. Donc, on a absolument besoin de quelqu'un qui va être là pour nous aider à entre guillemets, confronter notre angoisse plusieurs fois par jour. Il y a aussi un type particulier, et c'est là où peut-être on retrouve la définition d'autophobie au sens de peur de soi. C'est un type de TOC, c'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. C'est une crainte exagérée de commettre un acte répréhensible alors qu'on n'en a pas envie. C'est-à-dire sous un phénomène de perte de contrôle. Donc on a constamment besoin à ce moment-là d'être avec quelqu'un qui pourrait nous empêcher de passer à l'acte ou de faire des choses moralement répréhensibles. Mais aussi, à côté de ces troubles anxieux, on retrouve, je le disais, aussi des structures ou des tendances particulières au niveau des personnalités. Par exemple, les personnalités qui sont très fortement marqué par plusieurs abandons, notamment pendant l'enfance, etc. Donc, comme les troubles de personnalité borderline, vont être extrêmement sensibles au fait d'être seul, à la solitude, avec une perception extrêmement péjorative de ce que c'est cette solitude, ce que ça représente pour nous. Donc, avec tout ce que ça peut créer comme détresse, comme en termes de complications, comme risque d'addiction, comme risque d'installation de dépression. C'est un petit peu ça l'image globale de l'autophobie dans ce qu'on peut rencontrer dans la pratique clinique, je dirais, de tous les jours.
Et docteur Atman Lorabi, est-ce qu'il y a des symptômes ou des façons de la reconnaître ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle se manifeste ? Comment s'en rendre compte ? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte, justement ?
Oui, bien sûr qu'on peut s'en rendre compte, et c'est un tout petit peu, je dirais, il faut exercer son œil à retrouver ça, parce que en fait, on s'en rend pas tellement compte parce qu'on met en place, je dirais systématiquement et de manière quasi inconsciente, des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à systématiquement, alors même qu'on pense ne pas y avoir réfléchi, ben avoir tout fait pour éviter d'être seul. On va adopter le rituel de s'asseoir au café à la fin d'une journée de travail ou de faire un crochet pour voir la famille, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de stratégies qui sont dans notre quotidien, qui sont là. Alors, certes, nous sommes enfin, qui sont là et qui masquent cette tendance, mais bien évidemment, il faut garder à l'esprit que nous sommes normalement des êtres sociaux. Donc oui, on a besoin de contacts sociaux, c'est très important, mais on a aussi besoin de moments de solitude où on est seul. On pourrait en discuter des heures, mais au final, quand on est là tout seul, ben c'est là qu'on est vraiment nous-mêmes.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire, voilà, d'un point de vue même philosophique, donc on peut en débattre. Et ça, c'est quelque chose. Alors, ce qui est remarquable, c'est que souvent, c'est quelque chose. Enfin, c'est une difficulté qu'on observe peut-être assez jeune. Assez jeune, cette difficulté à être seul. Alors, bien sûr, il y a les troubles de l'attachement, etc. Donc, ça, c'est. Voilà, mais même hormis ces troubles de l'attachement, on a des tendances de personnalité, des personnes qui ont beaucoup de mal à s'occuper en étant seul, parce qu'être seul ne veut pas dire. N'est pas forcément synonyme d'ennui et d'angoisse. Et c'est justement là, peut-être, le raccourci qui pose problème, parce qu'être seul, c'est le moment de, ben, je sais pas, de penser à soi, de prendre du temps pour soi, de lire, d'écouter de la musique, même de, je sais pas, ce genre de choses, enfin plein d'activités qu'on va pratiquer en étant seul, même si on peut être en présence d'autres personnes. Mais ça, c'est une autre. On peut être seul en présence
Bah
d'autres
oui,
personnes. Ça,
justement, c'est vrai. Ça,
oui,
c'est le pire.
absolument.
Ça, c'est pire. Vaut mieux se
Absolument.
retrouver seul, seul que seul avec des personnes. Et justement,
Oui.
docteur Atman Lorabi, est-ce qu'on peut la traiter ou comment la surmonter, tout simplement?
Alors oui, parce que alors l'autophobie, comme je disais, c'est un symptôme, et puis si ça s'intègre dans un trouble, ben, bien sûr, un trouble, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge sous peine de complications, de chronicisation, etc. Donc quand on parle d'agoraphobie, de troubles paniques, quand je parlais de troubles obsessionnels compulsifs, de phobie d'impulsion, même quand il y a des troubles de la personnalité qui posent vraiment problème ponctuellement en termes de souffrance dans des dynamiques relationnelles complexes. Oui, il faut prendre en charge. C'est principalement, il y a beaucoup, beaucoup de psychothérapie là-dedans, parce que justement, je le disais, on peut en débattre, et c'est important de changer de perspective, justement, vis-à-vis de comment est-ce qu'on perçoit cette solitude. Parce que bon, un autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, etc., on est extrêmement rarement entre nous et nous-mêmes. Et c'est aussi là une piste de réflexion, parce que il faut arriver à être seul en étant déconnecté et à prendre du bon temps, arriver à ce que ce ne soit pas un moment de détresse. Et je dirais, c'est un apprentissage. Parce qu'on peut être en train de pratiquer une activité en solitaire qui puisse nous procurer du plaisir et qui gomme un petit peu justement cette image de je suis seul donc malheureux.
Donc là, on arrive un petit peu à profiter de ce moment, finalement, que ça soit pas une corvée, mais plus un moment de plaisir.
Bien, absolument, juste à condition que notre état de santé nous permette justement de pouvoir profiter et prendre plaisir à ce genre de moment.
Et docteur Timal Lorabi, enfin, est-ce que ça peut engendrer des complications si ce n'est pas, par exemple, traité ou pris en charge à temps?
Oui, absolument. Parce que étant donné que bon, on peut avoir des routines de vie qui vont faire qu'on va être confronté plusieurs fois par jour à des moments où on est seul ou très seul, ou à quelques occasions, je dirais, d'événements de la vie qui peuvent être des divorces, des choses comme ça. Et ben, on peut avoir cette autophobie qui soit exacerbée, et on va avoir tendance, pour la plupart des gens, à aller vers des substances qui vont les soulager. Ça, c'est les troubles addictifs. À la longue, ce genre de choses, surtout quand quand l'autophobie, enfin, quand il y a d'autres symptômes péjoratifs comme les troubles du sommeil, etc., qui sont associés, ben, on peut avoir un phénomène d'épuisement avec une vraie dépression qui s'installe, avec tout le risque d'avoir des idées noires, des idées suicidaires, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est-à-dire à partir du moment où on se rend compte qu'on souffre réellement quand on est seul, il ne faut pas se poser la question, il faut aller faire un diagnostic précis pour justement aborder la chose sous le meilleur angle en essayant de combiner la psychothérapie et éventuellement d'autres, enfin éventuellement des médicaments.
Merci beaucoup docteur Atman Lourabi d'avoir apporté tous ces éclairages, c'était un plaisir et on se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet.
Avec plaisir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, bonne journée.